Cette semaine, à la vie en BD, Samuel Quentin et son shérif Junior, Richard Valran et son Arthur Leclerc. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier est au micro avec vous pour la prochaine heure. Une heure consacrée à parler du 9e art, à parler de bandes dessinées. Et dans le contexte, en fait, d'une belle rentrée BD, je trouve, en fait, plusieurs albums qui s'accumulent joyeusement, d'ailleurs, sur mon bureau, entre autres, beaucoup de productions québécoises. Et sincèrement, je regarde ça, je suis toujours un peu découragé, je me dis, il y en a beaucoup dont j'ai hâte de vous parler, mais il y en a d'autres aussi qui étaient déjà là avant et dont j'avais déjà hâte de vous parler. Alors, c'est un peu d'équilibré entre nouveauté et rattrapage. Et j'aurais envie de dire que c'est un peu ça qu'on va faire ensemble cette semaine. Donc, un album qui est un peu en mode rattrapage, une autre nouveauté également dont on vous parle quelques jours avant sa sortie. Alors, c'est le programme pour cette semaine. Alors, l'album qui est en rattrapage, je tenais absolument à vous en parler rapidement dans ma rentrée BD. Il s'agit de Shérif Junior, donc premier tome d'une série. Et par tome, on parle quand même d'un 450 pages, c'est quand même massif. Un nouvel album de Samuel Quentin qui reste dans l'esprit de ce qu'il nous a offert précédemment avec ses dialogues, avec ses ambiances un peu décalées, absurdes, avec beaucoup de richesse de personnages aussi. Donc bref, on va passer une demi-heure avec lui pour jaser de cet album. Ça sera en première moitié de l'émission. Et en deuxième moitié, on va aller vers la nouveauté. Alors, de Pau-Pau, on va passer à la Pastèque avec Arthur Leclerc, projectionniste ambulant, un album scénarisé par Normand Grégoire, dessiné par Richard Valran, qui nous amène au début du siècle au Québec, dans les villages et dans Montréal, un album historique autour du cinéma, une histoire d'une vie, une histoire d'amour, une histoire d'une passion aussi. Dessiné en sépia, pour l'essentiel, donc un nouvel album historique d'ailleurs pour Valran, et c'est lui qui sera avec nous en deuxième moitié d'émission pour explorer donc ce Arthur Leclerc. Alors c'est le menu pour cette semaine ici à l'émission. Bande dessinée qui est sur les étaux des libraires depuis déjà plusieurs semaines, une bande dessinée dont on avait fortement envie de vous parler rapidement également dans cette nouvelle saison, eh bien c'est Shérif Junior. Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur poussière, un volumineux album de quelques quoi, 450 pages, nouvelle œuvre de Samuel Quentin qui est avec nous. Samuel, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Et j'ai l'impression qu'on t'attrape à un moment où ton œuvre est en train de devenir, à défaut d'un meilleur terme, multimédiatique. Le cinéma avec Ville et Misérable, le théâtre avec White Horse, Sylvain le Magnifique en web-série, évidemment la BD qui se poursuit. Une façon de dire que, dans le fond, ton approche de dialogue, ton absurde aussi, dans le fond, semble vouloir bien se transposer d'un médium à un autre.
Oui, c'est vraiment une année un peu, c'est comme un hasard des fois, parce que ces projets-là, des fois, datent de 6 ans pour le film, même plus. Je pense que nos premières rencontres pour le film datent de 2016. À l'époque, Vénéme Misérable avait à peine 3 ans maintenant, il y a 10 ans. Le livre a 10 ans maintenant. Mais oui, tout part de la BD. Tu sais, ça reste ça, on dirait, mon créneau principal. Puis, mais reste que moi, tu sais, j'avais étudié en cinéma, puis en littérature, fait que j'avais peut-être soit que ça paraît dans mes BD, dans l'attention que je mets au dialogue ou ces choses-là, mais ça a comme inspiré des gens à venir me. T'sais, tous ces projets-là sont un peu partis par d'autres gens motivés, comme dans le cas du film, c'est Jean-François Leblanc, qui est un réalisateur, qui c'est ça qui m'a écrit en 2016, puis qui était comme je veux faire un long métrage avec Vénéme Misérable, en vrai, pas en dessin animé, là, avec des acteurs, j'ai une vision, puis tout, puis on était allé prendre un verre, puis ça a cliqué tout de suite. Puis là, il a embarqué sa compagnie de production avec qui il travaillait, Colonel Film. Fait que c'est. Puis pour le théâtre, un peu le même genre de situation, les deux comédiens, Guillaume Lorrain puis Sébastien Tessier, qui ont fait une scène de White Horse, ma BD de 2015, aux auditions ouvertes de chez Duceppe. Puis là, les gars de Duceppe, les directeurs artistiques de Duceppe ont trippé, puis ils ont demandé « ça vous tente-tu de faire la pièce au complet? » Là, ils m'ont appelé, puis j'ai dit « oui, genre, certainement, c'est mon rêve, j'embarque. » C'était déjà théâtral, le texte de White Horse aussi. Il y avait beaucoup de longs monologues, des longues scènes. On a changé des trucs en l'adaptant, là, mais c'était le matériel brut était vraiment. Il s'adaptait bien là, au théâtre.
Puis tu disais tout à l'heure, en fait, qu'il y a des projets qui germent, depuis longtemps, en fait, donc c'est le cas pour le cinéma, le théâtre arrivé un peu par hasard, mais Shérif Junior aussi, j'ai l'impression que c'est un projet qui germe depuis un certain temps. J'avais lu quelque part que ça fait depuis 2013 que tu dis, OK, il faudrait que je fasse quelque chose avec ce personnage-là. Il y a eu White Horse qui est arrivé entre-temps. Et là, finalement, t'as trouvé après White Horse le filon pour te lancer, dans le fond, concrètement avec ce projet-là?
Oui, exact. Je pense que tous mes projets sont un peu comme ça. On dirait que je pense que j'ai peut-être un processus créatif assez lent d'une certaine manière. Quand je travaille, je suis capable de travailler vite, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais comme les idées se forment lentement, ou plutôt je les laisse mijoter longtemps, peut-être, là, parce que Shérif, c'était effectivement en 2013. Quand Ville est sortie, j'avais annoncé à Luc, mon éditeur, Luc Bossy de chez Papa, j'avais dit ma prochaine BD, ça va être ça, Shérif Junior, tu sais. Puis j'y avais montré. Mais même là, en 2013, c'était un personnage que je dessinais à temps perdu depuis peut-être, je dirais, 2003, genre 2003-2004. Mais tu sais, c'était pas concret, mais c'était mon petit personnage de Shérif. Puis il y avait son nom, Shérif Junior. Puis. Je faisais des petits. C'était même pas des strips, là, mais c'était comme des situations, des une page dans mes cahiers de croquis. Tu sais. Mais j'avais pas plus d'idées que ça. C'était juste dire, ah, c'est un bon, j'ai toujours voulu faire un western. Mais effectivement, j'avais pas plus d'idées que ça. Fait que quand est venu le temps de l'écrire en 2013, ben, il y a quelque chose qui est venu prendre le dessus, qui était peut-être déjà plus formé. Qui était White Horse, qui venait d'une nouvelle que j'avais écrite, mais aussi le genre me parlait plus à ce moment-là. On dirait que j'avais envie de faire. Tu sais, j'avais fait un peu un truc d'astronaute pour ma première BD. Ma deuxième BD, c'était une affaire d'un diable qui traînait dans une librairie. On dirait que là, j'avais envie de m'éloigner peut-être un peu du fantastique. Il y a des éléments fantastiques dans White Horse, mais j'avais envie de plus me parler, de faire quelque chose de personnel qui parlait d'un peu de. Du milieu dans lequel j'évoluais, des gens qui m'entourent, je le parle.
Avec des assises quand même similaires dans le fond, puisque c'est avec tous les albums dont tu cites, je veux dire, tous tes albums, j'ai toujours l'impression que ton personnage central, y compris dans White Horse, où des fois le décalage est peut-être moins évident parce que, comme tu dis, l'univers est plus proche, mais il y a des éléments dans les situations, sinon, et encore dans Shérif Junior, où tu as un personnage central qui est un peu en décalage avec la réalité de ce qu'il est en train de vivre, mais la réalité de ce qu'il vit est aussi en décalage par rapport à notre réalité ou notre. Et c'est un peu un jeu de domino à la limite, là.
Oui, vraiment. Dans Phobie, c'était le personnage principal, Marcus, il ne comprenait rien de ce qui se passait. Il se faisait tromper par sa blonde, il était le seul à ne pas s'en rendre compte. Et je trouve aussi dans Shérif, mettons, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer, tu sais. Tout le monde, tous les personnages dans le livre sont en crise existentielle. Sauf Shérif, qui est un peu... qui lui, ça cherche pas du tout. T'sais, lui, au contraire, c'est ça qui est drôle. Il a 11 ans, puis il sait exactement qui il est. C'est un shérif, puis il est comme... C'est sa vocation, puis il est, la loi et l'ordre, puis on dirait que toutes ses valeurs, tout son système de valeurs est déjà super assis, puis super clair, puis... Tandis que tous les autres autour de lui, même, je dirais, le père gentil, toutes les bandits ont tous des remises en question.
Donc,
Mais c'est
ça crée un bel équilibre, dans le fond, en termes de rythmique. Si on introduit un peu l'album, donc tu l'as dit, on est dans le western, on s'amuse un peu avec le genre aussi, on le fait à la sauce Samuel Quentin, à défaut de meilleurs termes pour le décrire. Et donc, tu as ce shérif-là qui a 11 ans, qui est au cœur du récit, qui est un peu invincible, pratiquement, et autour de lui, il y a un théâtre qui se vit, dans un récit qui va s'étendre tranquillement sur 450 pages. Côté création, est-ce qu'on se dit, dans le fond, est-ce qu'on se lance d'entrée de jeu en disant, OK, je vais faire une brique, ça va être énorme, ou au contraire, on se dit, OK, je vais faire un 30 pages, puis finalement, le 30 pages grossit, 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 puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est en train de faire une brique.
Ouais, c'est exactement ça qui est arrivé, en fait. Tu dis 30 pages, c'est proche de ça. Tu sais, je savais que je pourrais pas faire quelque chose de 30 pages vraiment. Mais au début, j'avais même jonglé avec l'idée de faire comme des petits numéros, 32 pages. Tu sais, c'est le comic, puis me faire un système d'abonnement, puis tout ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai comme. Je visais plus comme 120 pages, peut-être pour la BD, mettons, là, tu sais. Mais plus j'écrivais, plus je me rendais compte que j'avais beaucoup de personnages. Tu sais, je voulais faire du. C'est ça qui était différent de mes autres BD. Ben, une des différences. Je voulais vraiment plus établir un monde. Pour emprunter un mot anglais, je voulais faire un peu plus de world building que dans mes autres BD, mettons. Fait que je voulais comme établir plusieurs personnages dans le village, tu sais, puis. On dirait que j'ai comme une petite backstory pour tous ces personnages-là. Fait que je me suis mis juste à écrire des scènes, tu sais, avec plusieurs personnages, tu sais, des fois, mais même si c'est Shérif Junior, le personnage principal, il y a Madame Maud, Pistachia, Jacobin, c'est tout des gens, des personnages auxquels je veux revenir dans la série, tu sais. Donc, on dirait que je me suis vraiment emporté à écrire, puis je voulais comme présenter beaucoup de personnages, établir les trucs. Mais je pense pas que je vais retourner à 450 pages pour les autres livres suivants, mais je me suis quand même abandonné un peu à mon style, tu sais. Je pense pas que je vais faire quelque chose d'aussi court que j'apprécie les longues scènes. Puis je me suis comme sans être trop indulgent, ça fait partie de mon style, fait que je vais essayer de trouver un équilibre entre les deux, là, tu sais. Mais je veux pas, j'aime ça, tu sais, une scène de 20 pages de dialogue dans le lit, tu sais, je trouve la BD serait pas pareille s'il n'y avait pas cette scène-là, tu sais. Même en
Oui.
regardant quoi couper à la fin, je trouvais qu'il n'y avait rien qui enlevait. Il y
À
avait.
la limite, ça apportait. Parce que si tu dis des longues scènes, puis veux pas le backstory, les éléments, tout ce que tu construis autour d'un récit, comme tu dis, qui est un récit choral dans une certaine mesure, les personnages auraient moins de substance. S'il n'y avait pas libre cours à prendre cet espace-là, et comme après ça, on se retrouve, j'imagine, dans un univers qui est quand même un peu absurde, avec lequel on est un peu en décalage, ben on a l'impression de les connaître, d'avoir véritablement passé un moment ensemble. Fait qu'après ça, même ce qui leur arrive, et parfois un peu sans queue ni tête, il y a quand même une grande profondeur aussi à côté et en même temps. Fait que ça permet de jouer, j'ai
Merci.
l'impression, avec les différents niveaux, là.
Oui, c'est exactement ça que je voulais, parce que même à travers toute l'absurdité, puis la je veux toujours qu'il y ait un peu quand même que mes personnages, on y croit, tu sais, que même s'il y a des personnages très stéréotypés, puis tout, ils ont comme toute une genre d'humanité au fond d'eux, tu sais, puis c'est juste en passant du temps avec eux qu'on peut un peu l'explorer, tu sais. Puis je me dis toujours, aussi, tu sais, j'étais comme assez long, 450 pages, mais je me dis, c'est quand même, ça reste une BD, là, tu sais, s'il y a du monde qui lise Guerre et Paix, c'est comme 2000, 2000 pages serrées, je me dis, ils vont être capables de toffer. Moi, j'aime ça une
Et...
BD quand même, qui m'en donne pour mon argent. Que
Ouais,
je lis pas en 25 minutes, c'est cool quand même.
Et côté mise en scène, en fait, avant de revenir un peu au dialogue, ce que je me dis, tu sais, d'une entrevue à l'autre, on me dit toujours, ce qui est difficile à mettre en scène, c'est des scènes de dialogue, des scènes où il y a beaucoup de mots, des éléments comme ça. Il y en a beaucoup des scènes comme ça dans Sheriff Junior, autant que dans White Horse aussi. C'est, je veux dire, t'as un style qui est quand même très axé sur le dialogue, sur la communication. J'imagine que tu écris d'abord le dialogue, puis ensuite tu vois un peu comment l'orchestrer, mais qu'en même temps, en l'orchestrant, il y a quand même un défi aussi à varier un peu, que ça soit, qu'il n'y ait pas une redondance visuelle. Ça reste quand même un médium qui doit être visuel, même si on se permet des bulles de type Achille Talon à l'occasion.
Ça c'est comme au découpage que ça se passe là, tu sais. C'est la partie la plus importante là. J'écris mes BD un peu comme un scénario de film là, tu sais. J'écris sur Final Draft maintenant. Avant c'était plus improvisé, mais là maintenant, tu sais, j'ai toujours passé beaucoup de temps sur mes dialogues, mais là c'est vraiment organisé. Fait que quand vient le temps de maintenant, je sais même à peu près, tu sais, une page, tu sais, comme on dit, quand on écrit un scénario pour un film, c'est comme une page, une minute, là, à peu près, là. Mais moi, c'est plus comme une page. Tu sais, comme, mettons, mon scénario pour Sheriff était 300 pages, puis ça a fini par être 450 pages de BD. Tu sais, fait que déjà, je peux avoir un peu une bonne idée maintenant de ce que ça donne. Puis, même pour les masses de texte, je commence à être habitué, mais ça reste un enjeu toujours de où les placer. Est-ce que là, je fais une grosse masse de texte ou je fais trois cases et je sépare le texte en trois? Comme par exemple, il y a un long monologue de Pistachia où elle est dans le lit, tu sais, puis elle fume une cigarette, puis elle parle, qu'elle est comme en dépression. Puis ça, c'était comme, je pense que c'était du genre deux pages de texte, là, tu sais. Mais là, tu sais, il fallait que je la mette en scène dans comme 5-6 pages. Fait que je l'ai découpé, mais tu sais, ça se fait assez instinctivement selon l'émotion qui change dans le
Exact.
texte, là, tu sais, là. Des fois, tu veux que le personnage soit dans une telle position pour appuyer les propos, tu veux changer l'expression, tu sais. Puis, j'essaie de varier côté un peu plan, tu sais, d'avoir des plans plus larges, mais c'est sûr que quand c'est un monologue, je veux rester concentré sur le visage, tu sais. Fait que c'est sûr que ça va rester des gros plans, mais pour moi, les mains sont super importantes aussi. Fait que ça va être plus style plan américain souvent, là. On voit moins le torse, là, tu sais, là, parce
Oui, puis
que.
j'aime bien ce que tu amènes avec justement la progression. Je pense que le monologue de Pissachette est un bon exemple où, veux pas, ben, faut sentir la progression, faut qu'il y ait une montée d'intensité. Donc, tu nous la c'est le visuel, c'est la découpe, c'est le passage de case en case qui nous amène à OK, on intensifie, on change un peu de répertoire, on revient, il y a une réflexion. Donc, ça rythme un peu ce monologue-là, puis ça le théâtralise, entre guillemets, aussi.
Ouais, vraiment. Puis des fois, tu veux avoir c'est le fun d'avoir une réaction, c'est une reaction shot, comme on dit en anglais, mais tu sais, l'autre personne qui. Une case silencieuse qui répond au monologue, tu sais, c'est toujours bon d'avoir. C'est vraiment comme. Moi, je le vois comme diriger des acteurs un peu, tu sais. C'est vraiment. Je pense que c'est ça qui me fait triper, tu sais. Je sais pas, c'est l'aspect. Comme je disais tantôt, j'ai toujours voulu faire des films. Fait que c'est. Moi, en BD, tu sais, je le vois comme un peu la même chose.
Puis il y a une rythmique, en fait, parce que tu veux pas, il y a beaucoup de dialogues. Puis le dialogue du 20 pages, je pense qu'encore là, il reste un bon exemple là-dessus. Mais pour justement garder un dialogue qui est rythmé, qui fait rire à l'intérieur, il y a plusieurs dimensions. Puis je pense que pour qui n'a pas lu une de tes BD, s'il y en a, lisez-les. Dans le fond, il y a vraiment le langage régulier, le langage du texte. Tu insères des éléments linguistiques qui vont faire sourire des termes un peu qui vont accentuer peut-être un sentiment de recul, des chills, des trucs un peu plus actuels dans la langue populaire. Après ça, il y a l'exposition elle-même. Il y a le côté absurde de la scène au départ, mais qui peut prendre un virage assez aussi réaliste parce que ce monologue-là et ce dialogue-là dont on parle autour de Pissacha, ça nous amène vers du féminisme, vers l'appropriation du corps, vers toute une réflexion qui est très, très ancrée dans le débat social actuel. Mais avec le décalage que ça se passe dans un western, dans un univers décalé. Donc, il y a plusieurs dynamiques de jeu. Et à travers tout ça, il faut que tu gardes une rythmique de dialogue. Puis T'sais, à quel moment, justement, est-ce que tu dis, OK, j'ai cette recette-là, tous les ingrédients sont là, ça fonctionne? Est-ce que, instinctivement, parce que tu y as pensé avant, après ça, tu te lances, puis c'est un peu dans une hallucination où tu écris ça pendant une demi-journée, puis ça sort? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment du travail d'acharnement pour réussir à trouver le bon beat, à le réécrire 20 fois, 50 fois?
C'est une bonne question. C'est un peu les deux, je dirais. Tu as évoqué deux affaires. Une affaire plus inconscient, un peu je me lance impro. Il y a de ça. Toute l'écriture part souvent de là. Un peu écriture automatique. Je vais avoir une idée. Là, je vais aller prendre une marche. Je vais avoir des. Une idée peut venir n'importe quand, mais. Généralement, ça va être pendant que je suis en train de prendre une marche ou quelque chose. Puis là, je le note, mais après, je pars de ça, puis j'ai comme appris à ne pas me mettre de barrière en écrivant, puis à un peu tomber dans une zone, parce que je sais que c'est là qu'il y a des... J'ai comme appris qu'il y a des choses de fun qui sortent dans ces situations-là. Mais il y a aussi un aspect quand même très conscient qui est... Tu parlais un peu la job d'équilibriste, de tout mettre ça ensemble, que j'ai gagné par expérience. Tu sais, comme tantôt, je disais que j'avais décidé de faire White Horse avant Shérif, finalement, mais si j'avais pas fait White Horse, je suis pas sûr qu'il y aurait eu cet aspect-là dans Shérif d'un peu d'anachronisme. Là, il y a comme une partie de moi qui avait encore envie de... satiriser ma société, le monde qui m'entoure, ma génération, ou d'en parler, disons, là, à travers le personnage de Pistachia ou Jacobin, ou même certains des bandits. Il y a comme cet aspect-là actuel en lequel on se reconnaît. Je pense que je l'aurais pas, peut-être pas, ça aurait été... pas mal plus direct aventure de cowboy, je pense, si je l'avais fait directement après Ville et Misérable. Mais j'ai aimé ça, cet aspect-là. Quand je faisais White Horse, je faisais Pastrami, le personnage de Pastrami. Puis tu sais, c'était la première fois que... Ben, c'est pas la première fois, mais tu sais, là, j'étais à fond un peu dans la satire. Puis tu sais, tout le monde était comme... Ah, c'est qui cette... J'étais comme... Ah, c'est pas personne en particulier, tu sais. C'est juste... C'est un milieu, c'est une situation, tu sais. Mais j'ai vraiment eu envie de... Je sais pas, il y a cet aspect-là est comme resté dans ma... Pas moi dans mon coffre d'outils, mais genre... c'est comme devenu évident que si je faisais... Quand je pensais à Shérif après ça, je savais qu'il y aurait un peu cet élément-là qui serait là aussi, même si c'était dans un monde imaginable 120 ans.
Puis le côté monde imaginaire, en fait, il y a un renversement par rapport à White Horse dans le dévoilement un peu du côté extraordinaire qui est présent à la fin de White Horse. En fait, c'est une montée vers justement un absurde avec des dinosaures, puis qu'on pense qu'on est dans le monde normal, entre guillemets, dans une certaine mesure, mais finalement, on se rend compte à quel point on n'y est pas finalement. Dans Shérif Junior, en fait, j'ai l'impression qu'au contraire, on commence en nous disant, regardez, on n'est pas dans un monde normal, n'importe quoi pourrait arriver. Avec l'idée justement de l'arbre où il y a des revolvers qui poussent. Mais après ça, on ressent peut-être un peu moins le besoin de pousser au-delà d'un certain point ce côté absurde-là, ou du moins parce que tu l'as placé dans les cinq premières planches. Veux pas, on accepte à peu près tout ce que tu vas nous amener, que ce soit des squelettes qui se changent de peau, ou une espèce de drogue que tout le monde prend, ou des trucs qui seraient peut-être plus impromptu si tu n'avais pas amené ces cinq premières planches-là où il y a un absurde qui est complet, qui est absolu, puis qui nous planche à quel point on est dans un western, mais pas dans un western, dans le monde western standard.
Exact. C'était comme important pour moi de commencer un peu comme ça, tu sais, puis c'était assez... on voit l'arbre au pistolet au début, puis... J'y reviens pas à l'arbre au pistolet tant que ça, mais ça va être un élément que je veux dans d'autres livres, que je veux qui va continuer d'être important. T'sais. Fait que je voulais comme vraiment établir la scène pour me permettre après d'avoir une scène de 25 pages dans le lit, puis que de la mettre assez tôt aussi, juste pour dire comme rapidement, il va y avoir de ça, il va y avoir de ça. Établir les deux après. On dirait qu'en faisant ça, j'avais l'impression que je me dédouanais après, comme ça me donnait beaucoup de liberté pour le reste du livre et de la série, tu sais. Je me disais, je veux faire une séquence, si je veux faire une séquence dans un autre livre, un flashback juste sur la romance entre Tango Lalu et Madame Maud de 40 pages. Je sens que je peux me le permettre, puis peut-être que les gens vont embarquer, tu sais, si ont aimé le premier, puis avec toutes les changements de ton, puis les digressions qu'il y avait dans le premier. Je me disais que si les gens embarquent là-dedans, en tout cas, moi, ça m'excite quand je vois. Quand je vois une œuvre qui est un peu labyrinthique comme ça, où il y a plusieurs petits univers à l'intérieur d'un même plus grand univers, tu sais. Fait que je fais ça parce que j'aime ça. Ça me procure beaucoup aussi de liberté, puis ça m'excite pour les autres livres, tu sais. On dirait que dans le premier livre, je voulais m'ouvrir le plus de portes possible pour le reste. Puis je me souviens quand l'écrivain, j'étais comme, ouais, OK, là, ça fait, tu sais, au début, ça commençait fort, les 30-40 pages, mais là, on est pas mal. Je me suis dit à Manu, j'étais dit, OK, là, il faudrait que j'enclenche sur l'action. Je veux quand même qu'il y ait de l'action, je veux qu'il y ait. J'étais comme, là, ça fait 200 pages qu'on jase. J'adore, je les relis pas, ces 200 pages-là, mais je voulais qu'à la fin, ça enchaîne, tu sais. Je voulais comme rappeler à la fin que. Ça va aussi être. Il va y avoir de l'aventure, puis
On reste dans un western, au bout du compte. Il faut qu'il y ait des duels, il faut qu'il y ait des chevauchées sauvages, il faut qu'il y ait des mines abandonnées.
Exact, je vais garder des codes. Ouais.
Et dans un contexte comme ça, parce que tu disais tantôt, il y a quand même un côté instinctif dans ton écriture, dans les dialogues, et j'ai l'impression que dans ces dialogues-là, si moi je trouve comme lecteur beaucoup d'éléments sur tes personnages, c'est-à-dire que toi aussi tu les trouves dans ces interactions-là. Fait que j'imagine que dans le jeu d'équilibriste dont on parlait tantôt, à un moment donné, il faut que tu dises, OK, là, j'arrête. J'ai plein d'idées, mais je les note sur une autre feuille, quelque chose, pour les suites parce que tu pourrais continuer longtemps aussi à développer un peu ces éléments-là, à développer les relations entre deux personnages. Donc, qu'est-ce que tu décides d'en dire? Qu'est-ce que tu décides de garder en banque pour le prochain, dans le fond?
Ouais, c'est ça. Je me suis fait des fichiers, tu sais, différents dans mon ordi. Puis j'ai déplacé des affaires parce que comme je disais tantôt, là, à un moment donné, il fallait que l'action avance, là, tu sais. Mais j'ai quand même plusieurs idées pour d'autres livres. Puis c'est ça que je fais. C'est exactement ce que je fais. Je me prends des notes puis je me dis, ah non, ça serait plus là, tu sais. Fait que là, je le classe dans ce fichier-là. Quand j'arrive c'est pour ça que je dis, ça se fait un peu de ça. Des fois, mes idées restent longtemps dans ma tête, mais en ajoutant au fichier, petit à petit, finalement, j'arrive, puis j'ai comme quand même beaucoup de stock là, pour commencer. Je peux juste comme commencer à bouger les affaires, tu sais. J'ai comme des idées vagues pour les autres livres déjà. Fait que dans le fond, c'est vrai qu'en faisant le premier, quand j'avais besoin de couper des trucs, tu sais, j'ai rien coupé, j'ai juste déplacé. Parce que quand j'aime quelque chose, quand j'aime une blague, ou des fois c'est comme c'est gratuit, là, mais tu sais, comme si ça me fait rire 25 fois, parce que je repasse souvent dessus, ben c'est sûr que je la garde, là, même si elle n'a pas rapport à l'histoire. T'sais. Puis peut-être que là, des fois, ça avait vraiment pas rapport à cette histoire-là, mais je ne l'ai pas jeté non plus, je garde ça pour un an.
Oui, puis tu restes ton premier public, il faut que tu prennes plaisir à travailler un an, deux ans, trois ans
exact.
Sur un projet comme ça, puis à le trouver drôle, à le trouver le fun, sinon ça devient un peu trop, j'imagine, lourd aussi à un moment donné, surtout que je veux dire, te lancer dans l'étape d'écriture, après ça, tu tombes dans l'étape de découpage puis de dessin, mais je veux dire, ça reste quand même 450 pages à dessiner non plus. Ça doit être, à maner, ça doit être un peu décourageant, puis tu dois être vexé un peu contre le dialoguiste qui a décidé de faire une série de 20 pages ou 200 pages.
Non, mais je suis plus vexé contre le dessinateur qui est pas assez vite, qui est pas assez bon. Non, mais non, ça, pour vrai, j'ai regretté amèrement le nombre de pages au moment de le dessiner, là. Parce que, ouais, ça, c'était vraiment chiant et long. Puis c'est comme moins. Parce qu'en fait, tu sais, White Horse, c'est plus long que ça, mais tu sais, je l'avais fait en deux parties, j'avais pris une pause entre les deux. Là, j'ai fait sans arrêt 450 pages, puis même avant, mes livres étaient un petit peu plus, je faisais par bloc, là, tu sais, j'écrivais 15 pages, le découpage, je le dessinais, tu sais, ça variait, mais là, je suis comme devenu tellement comme anal sur le scénario que je travaille longtemps sur le scénario, fait que je fais tout par étapes. Fait qu'après, je fais juste le dessin vraiment d'un coup. Puis c'était vraiment trop. C'est une des raisons pourquoi je disais que je serais sûrement pas aussi long à l'avenir. C'est juste aussi quand ça fait, tu sais, quand après le brouillon, le découpage, là, ça fait comme 3 fois que tu le dessines, le livre, là, les 450 pages. Là, tu sais. Anyway, je ne veux pas chialer, c'est j'adore faire ça.
Mais c'est normal qu'à un moment donné, on ait des étapes
Oh,
et des
ouais, c'est ça,
moments.
moi.
Et à travers tout ça, en fait, j'imagine que ça devient nécessaire. Tu sais, après avoir fait ces pages-là, ben, nécessairement, tu vas passer à un autre projet, prendre un break de shérif avant de revenir sur le deuxième tome pour nettoyer peut-être un peu, pour pas te fatiguer non plus, j'imagine, à toujours être dans cet univers-là encore.
Ouais, non, exact. Là, je suis en train de faire, là, je suis en train de travailler sur la suite de White Horse, qui s'appelle Oublions Pépin, que j'aimerais sortir. Ben, si on parlait du fichier, là, ce fichier-là, il était quand même assez bien bâti là, depuis longtemps, là, tu sais. Fait que je voulais faire Shérif avant de le faire. Je voulais pas sortir tout de suite après White Horse, parce que aussi, l'histoire se passe un peu plus longtemps, ça se passe 5-6 ans après White Horse. Je voulais qu'il y ait du temps entre les livres aussi, là, tu sais. Fait que, on retrouve les personnages, ils sont plus comme début trentaine. Puis, c'est comme un autre mood un peu. Mais là, je suis à fond dans l'écriture de ça en ce moment. Puis, c'est ça que j'aime. J'aime tellement ça comme ce moment-là, là, tu sais, c'est comme que du bonheur. Ben, c'est dur à écrire, mais d'une autre manière, tu sais, c'est. Je me mets pas la même pression que quand c'est le temps de dessiner, justement, où là, c'est vraiment. C'est comme l'étape finale, c'est ça
En fait, l'écriture est le déclencheur, puis c'est le moteur. Dans le fond, tu
Ouais, fait
démarres par l'écriture nécessairement.
c'est plus relax, là, tu sais, en ce moment, je suis plus en mode exploratoire, ça fait changement, tu sais, c'est ça, mais t'as besoin moi, j'aime ce beat-là, là, tu sais, que là, je tombe dans une zone plus comme ça, puis après, je vais le dessiner, mais. En ce moment, je suis comme dans l'écriture, puis. Mais je veux revenir après à Shérif. Tu sais, j'ai des idées pour 7-8 livres là, minimum. J'aimerais ça comme continuer à en faire toujours. Tu sais, j'aimerais ça alterner entre toujours faire un Shérif, faire un autre. Tu sais, si j'ai la chance de continuer à faire de la BD longtemps, c'est ça mon plan. C'est ça mon plan de vie. Là.
Et j'imagine que quand tu arrives aussi à la dernière étape de dessin, mais veux pas, on est plus dans l'exécution, donc l'esprit, lui, peut commencer à réfléchir un peu au prochain, à te préparer pour quand tu vas arriver à scénariser. Donc ça donne un coup de pouce pour côté rythme de création aussi.
Oui, exact. Oui, non, c'est vrai que quand je suis en train de dessiner, l'esprit est un peu pas à off, là, mais c'est tout l'aspect résolution de problème, du scénario, puis tout ça est terminé. Puis même quand je fais mon brouillon, moi, j'ai fait assez précis, là, tu sais, c'est fait que mon propre, c'est vraiment. Je décalque, là, tu sais, là, fait que je décalque 450 pages, fait que c'est très mécanique, tu sais, c'est très. Effectivement, mon esprit est comme. Des fois, il est ailleurs. Là. Des fois, j'écoute un film en même temps.
Alors donc le premier tome de Shérif Junior qui nous arrive, je rappelle, ça s'appelle Shérif Junior, il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel sur poussière. Donc c'est le western de Samuel Quentin. Samuel, merci beaucoup.
Ben, merci à toi. C'était vraiment sympathique. Merci beaucoup.
Et je rappelle que l'album est disponible du côté des éditions Pow Pow. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier toujours avec vous. Et on fait un métissage, j'ai l'impression, pour le prochain album entre bande dessinée et cinéma. Quand même quelque chose qu'on a fait comme exercice, quand même pas mal au fil des dernières années et qu'on fait également aujourd'hui, mais vraiment dans une perspective historique. Un album qui est tout chaud sur les étaux des libraires. C'est du côté des éditions de La Pastèque. Ça s'appelle Arthur Leclerc, projectionniste ambulant. scénarisé par Normand Grégoire, dessiné par Richard Valran. Richard est avec nous. Bonjour.
Bonjour Raymond, merci de l'invitation.
Ça me fait plaisir. Et Richard, en fait, j'ai l'impression que cet album-là, pour toi, ça a été quand même un bon marathon. De ce que j'en ai compris, c'est un travail qui a commencé en 2017 avec toi et Normand Grégoire.
Normand m'a approché pour faire ce projet-là dans le courant de 2017. C'est drôle parce que 2017, c'est l'année où j'ai sorti mon dernier titre avec La Pastèque. Donc, ça fait un petit bout de temps. Il m'a proposé ce projet-là. Mais après, disons que, tu sais, avant qu'il y ait eu un processus d'écriture qui a continué de son côté, moi, j'avais fait déjà des tests, donc, de personnages, tout ça, juste pour voir si cet univers-là m'allumait. Puis, mais je suis déjà en partant, la prémisse m'intéressait quand même beaucoup, étant donné mon parcours en dessin animé. Puis, Normand Grégoire aussi vient de ce milieu-là un peu. Il a travaillé un peu avec l'ONF. Donc, il y avait comme une connexion qui s'est faite à ce niveau-là. Donc, l'intérêt, tu sais, pour tous les débuts, là, le cinéma des premiers temps, qui était très lié à l'histoire de l'animation aussi. Et puis, mais c'est ça. Donc, ça n'a pas été 5 ans non-stop là, que j'ai travaillé là-dessus. Après, c'est plus 2018 où là, j'ai reçu le scénario fin 2018. Il y a eu la pandémie, tout ça. Je continue à faire ma série Les Laborat à travers ça. Donc, plein d'autres projets. Mais disons, je te dirais que ça fait depuis... peut-être les 2 dernières années où j'ai vraiment travaillé de façon plus intensive. Là. Mais c'est la première fois que je fais un projet de cette envergure-là, c'est-à-dire de 181 pages de BD.
Oui, puis avec une bonne recherche, en fait, parce que, veux pas, à mon sens, on se retrouve dans un contexte historique, évidemment, donc on est au tournant du siècle, dans un contexte qui va t'amener à la fois dans le Québec rural de l'époque, donc dans plusieurs villages, le projectionniste est ambulant, éventuellement en cours de récit, un peu sans gâcher de punch, là, mais en deuxième partie, il s'établit dans une ville, et donc là, subitement, il faut faire de la recherche aussi sur le côté urbain des choses. Donc, j'imagine qu'il a fallu faire un peu de travail d'archives pour s'assurer qu'il y a une historicité à ce que tu présentes, dans le fond.
Oui, absolument. Il y a eu beaucoup de recherches, évidemment. C'est beaucoup d'images de référence à aller chercher des films que j'ai épluchés, certains films du répertoire québécois, mais aussi des séries qui se passaient à l'époque là, pour voir un peu comment les gens s'habillaient, comment la ville de Montréal aussi, parce que comme tu disais, il y a une partie qui se passe vraiment d'un côté urbain, Montréal, à cette époque-là, donc les façades, les rues, vraiment des détails, comment le métro, c'est-à-dire le tramway était fait, tout ça. Donc, il y a beaucoup de recherches, les voitures, les chevaux. J'ai appris à dessiner beaucoup de choses. Pourtant, c'est une époque que j'aime beaucoup dessiner. Là. Donc, c'est ce qu'on appelle la belle époque. Là. Les femmes avec les coiffures, les robes un peu extravagantes. C'est ça. Donc, les habits, les chevaux, tout ça. C'est quelque chose que j'aime dessiner, mais il y avait quand même une espèce de vraiment de tour d'horizon là. Vraiment maîtriser tout cet univers-là. Là. Donc, puis en faire un univers cohérent aussi. Donc, puis aussi les films aussi. Il y a beaucoup de films. Là. Il y a beaucoup de références à des films. Heureusement, avec YouTube, j'ai pu trouver certains de ces films-là. Puis aussi, autant que possible, moi, le choix que j'ai fait pour présenter ces films-là, parce que c'est un espèce d'hommage aussi, même si ça reste quand même une fiction, là, je tiens à le dire, parce que il y a eu des films, des BD documentaires sur l'histoire du cinéma qui sont très intéressantes là, dans les dernières années, mais nous, c'est vraiment une fiction, donc c'est vraiment une histoire vraiment où on suit des personnages qui vivent le cinéma, là, cette passion-là.
Il y a la réalité de l'époque qui est présentée avec le dessin qui est en sépia essentiellement, et à l'intérieur de cette réalité-là, il y a le fictif qui est le cinéma qui est inséré. Donc, qui est une représentation du réel, mais donc tu représentes une représentation à l'intérieur d'une autre représentation du réel. C'est comme un peu un jeu de poupée russe, presque.
Oui, ouais, puis dans le scénario de Normand était vraiment construit comme ça, comme une espèce d'hommage au cinéma. Puis d'ailleurs, parce qu'au début, quand je le lisais, j'étais comme, ah oui, il y a vraiment quand même des genres de clichés, là, mais tu sais, en fait, j'ai vraiment pris le... Je me suis dit, OK, c'est vraiment l'option... Le but de Normand avec ça, c'est vraiment de rendre hommage au cinéma comme ça. C'est un élément que je trouvais vraiment intéressant dans l'histoire, c'est cette espèce d'hommage-là au cinéma. Donc, les archétypes. Donc, on retrouve un peu ces archétypes-là dans certains des personnages. Évidemment, c'est une histoire d'amour aussi assez classique, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans le cinéma à cette époque-là. Donc, il y a un côté un peu terroir, je dirais aussi, là, le fait qu'il se promène vraiment de village en village, puis aussi l'importance de la religion à cette époque-là. Comment la religion, en fait, la religion catholique, c'est vraiment un des thèmes importants de l'histoire, parce que, puis ce que j'ai réalisé aussi en travaillant là-dessus, hein, c'est à quel point notre société, le Québec, puis même aujourd'hui, tu sais, on prend des choses qu'on prend pour acquis, mais comment la culture est venue avec le cinéma, tu sais, puis comment au début, quand on regarde de village en village, hein, la culture avait de la difficulté à se rendre, tu sais, quand on parle de culture, c'est-à-dire une vision là, du monde, sur l'ouverture sur l'extérieur, tout ça, c'est venu beaucoup avec le cinéma. Puis le cinéma, ben, c'est ça, c'est un peu... C'est venu beaucoup avec les projectionnistes ambulants, c'est que le cinéma se promenait beaucoup comme ça. Il y avait quelque chose un peu du phénomène de foire aussi, là. Mais vraiment, de façon, il se promenait comme, quand même de façon plus facile à transporter là, qu'un cirque, là. Mais c'est un peu comme ça que la culture se voyageait. Puis, ben, évidemment, les seuls moments où les gens pouvaient accéder à cette culture-là, c'est-à-dire à avoir du temps, parce que les gens travaillaient beaucoup, donc c'était le dimanche, souvent le seul moment qui leur restait. Et puis ça, ce moment-là, c'était réservé à l'Église. Donc, il y avait un conflit là, entre OK, le cinéma, l'Église. Au début, l'Église, une façon que le cinéma a pu rentrer dans les églises pour pouvoir faire des projections, ben, c'était vraiment de dire OK, on va présenter la vie de Jésus, on va présenter des trucs en lien avec l'Église à travers notre programmation, des fois qui présentait des petits courts-métrages historiques. Puis évidemment, c'était vraiment des petits films, hein. C'était plusieurs petits films, donc c'était une série de projections de petits films. C'était pas les grands films qui durent longtemps.
Et justement, pour se figurer un peu, parce que tu le fais dans l'album, justement, pour nous amener dans l'esprit de ces films-là, et tu décides et Normand Grégoire, en fait, vous décidez d'amener le projectionniste vers aussi la production de certains petits films qui sont filmés donc autour de ces balades-là. Il y en a une qui arrive assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le tournage est représenté d'un côté et comment le film lui-même est représenté ensuite, dans la mesure où, à l'époque, la machinerie cinématographique ne permettait pas de faire des gros plans. Alors, on voit le tournage avec plein de gros plans, ces deux personnes qui se tirent dans le fond, qui essaient d'ouvrir, fermer une porte qui est liée par une corde, un gag classique, entre guillemets, dans le fond, tu nous le montres vraiment avec des gros plans, avec des éléments de détail, parce qu'après ça, dans le film, tout ce qu'on voit, c'est de loin de la rue, dans le fond, cette scène-là.
Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai un peu triché à ce niveau-là parce qu'on sait que justement le montage alterné, tout ça, c'est des trucs qui sont venus par après avec Eisenstein, ces cinéastes-là. Donc, c'est sûr que moi, dans la BD, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est de faire répondre le langage cinéma avec le langage BD parce que, évidemment, tu sais, si je pouvais pas me permettre de faire. De montrer la salle, puis de rester du point de vue là, des spectateurs. Donc, à un moment donné, ben, on voit, ben, je me permets là, à ce moment-là de faire un montage alterné. Donc, alors que, dans le fond, les gens, ce qu'ils voyaient, c'est comme tu dis, c'est vraiment l'ensemble, la vue d'ensemble du gag là, qui est présenté à ce moment-là.
Tu t'imposes le sépia, tu t'imposes le noir et blanc. Donc, il y a une distinction où on comprend bien comme lecteur quand on est dans la réalité cinématographique versus quand on est dans le réel de la bande dessinée.
Ouais, c'est un choix que j'ai fait. Évidemment, j'aurais bien aimé là, mettre de la couleur, mais c'est beaucoup une question un impératif de temps aussi, là. Donc, j'ai opté pour le noir et blanc, mais la façon que j'ai trouvé de distinguer vraiment le film de la réalité, c'est que la réalité est en sépia. Et donc, puis aussi, je me permets des fois de changer ces sépias-là, parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe en 1970, donc. Le plus proche d'aujourd'hui. Donc là, j'ai changé un peu les couleurs. Puis aussi, dans certains moments où c'est plus dramatique, comme il y a un feu à un moment donné, ou à la fin, il y a un moment plus dramatique, j'ai changé un peu les teintes là, pour accentuer ces moments-là. Mais ce qui distingue vraiment le cinéma, c'est que le cinéma, lui, est carrément noir et blanc, là. Donc, j'ai aucune couleur. J'ai vraiment juste mis teinte, valeur de gris. Donc, c'est ce qui fait qu'on, ben, quand on voit le film qui apparaît dans la salle, ben, la partie cinéma va être en noir et blanc. ces codes qui permettent de voir que, ah, à ce moment-là, on est dans le cinéma, parce que justement, comme par exemple, au moment où Arthur Leclerc filme, ben, des fois, on voit ce que lui voit, tu sais. Mais à partir du moment où c'est projeté en film, ben là, tout d'un coup, ça devient en noir et blanc, tu sais. Donc, c'est un peu le parti pris que j'ai pris, le code qu'il faut comprendre quand on lit la BD.
Et qui est très limpide par ailleurs, on se mêle pas du tout. Et en même temps, ça te permet ce jeu-là aussi de nous ramener, puis des fois de présenter autrement l'image. Et j'ai l'impression aussi peut-être de faire plaisir à l'ancien cinéaste d'animation également, dans la mesure où je pense à une séquence sur la fin de l'histoire où Arthur Leclerc filme, dans le fond, les premiers pas de son enfant et on décompose vraiment le mouvement là, image par image.
Oui, absolument. Ben, là, vraiment, ça, je me suis fait plaisir. Là, je suis allé faire une référence à un photographe qui est lié à l'histoire du cinéma qui s'appelle Muybridge, qui lui-même a toute une histoire. Là, il mériterait une BD à lui seul parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'histoires autour de ce personnage-là. Mais il s'est mis à faire beaucoup de c'est-à-dire que dans son studio, il décortiquait le mouvement vraiment image par image. Puis ça, c'était avant vraiment l'invention du cinéma. Donc, c'est vraiment dans les années, j'aurais de la misère à dire, autour de 1850, 1870. Il faudrait que je vérifie là, pour dire une niaiserie. Mais c'était vraiment avant l'invention du cinéma. Puis même, ça précède ou ça arrive en même temps que certains mécanismes là, d'animation. Ben lui, il est assez connu parce que justement, en fait, c'est un défi qu'on lui avait donné, il avait fait un pari pour dire, bon, est-ce que les chevaux, il y a un moment où les chevaux il y a un moment où il n'y a pas de pattes qui touchent le sol, puis il avait voulu présenter ou démontrer ça, de montrer que non, c'est pas vrai, il y a tout le temps un moment où il touche le sol, donc c'était lié à ça, donc il avait voulu faire, donc c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait... Il s'est mis à faire des photos, images, à décortiquer le mouvement comme ça. Et puis, il l'avait fait aussi, justement, avec ses enfants. Donc, je me suis dit, je suis allé vraiment chercher ces images-là où il a vraiment décortiqué les premiers pas de son fils. Je me suis dit, je vais intégrer ça dans l'histoire. Je trouvais que ça s'intégrait bien. C'est un clin d'œil, hein, parce qu'on ne fait jamais la référence on le mentionne pas nécessairement que c'est Muybridge à ce moment-là, à moins de connaître un peu l'histoire du cinéma comme toi, Raymond.
Et à travers ta mise en scène, tu parlais tantôt, en fait, de la séquence, d'une des premières séquences du feu, en fait, le feu qui intervient d'ailleurs à des moments charnières, quand même, dans le récit. Je pense que la première est particulièrement frappante parce qu'on est à l'intérieur, dans le fond, d'une séance cinéma on comprend qu'il n'y avait pas de son non plus à l'époque parce qu'Arthur Leclerc est toujours en train d'expliquer ce qu'on est en train de voir, de le contextualiser. Et le whoops, feu dans une grange, et on se retrouve pendant essentiellement deux planches, avec un éclairage qui est légèrement différent, tu l'évoquais tout à l'heure, dans le contexte d'un récit qui est entièrement muet, donc comme si le récit prenait une pause à cause de l'événement, et je trouvais que le passage justement vers le muet, vers l'autre ambiance, mettait vraiment en exergue aussi peut-être ce moment-là, à la fois le côté dramatique, mais à la fois l'importance que ce qui se passe à ce moment-là allait prendre pour la balance du récit.
Ouais. C'est vrai que ça arrive à un moment important, puis il y a vraiment une montée dramatique dans l'histoire aussi, parce qu'au début, c'est quand même assez léger, puis c'est sûr qu'à un moment donné, on arrive, je ne vais pas vendre de punch non plus, mais il y a quand même des faits historiques là, quand même qui ont été assez dramatiques, qui est le feu qu'il y a eu au cinéma Laurier à Montréal, qui a été vraiment un événement. Mais là, je ne parle pas du même feu que celui dont tu parles, mais ça fait un peu... L'autre feu qu'on voit plus tôt, ben, c'est un peu comme un écho de tout ça, de ce qui s'en vient. Puis même au tout début, hein, il y a une scène où quand il est la première fois qu'il va voir, c'est pas du cinéma, là, il s'en va, il découvre, ça allume un peu sa passion là, pour ça. C'est plus à l'époque des lanternes magiques où il fait une présentation, puis on voit qu'il présente un volcan, puis ben, ça, c'est un clin d'œil. C'est un genre d'humour, l'humour de Normand, où en même temps, dans la salle, il y a un feu qui prend. Puis c'est aussi pour faire référence au fait que c'est quelque chose qui était, qui pognait, ben ça prenait en feu assez souvent, ce genre de, à cause du type de pellicule qui était utilisé. Donc, les feux étaient quand même assez fréquents. Et puis, ben c'est ça, sans dire tout là, par rapport à la fin, ce feu-là a quand même été important dans l'histoire du cinéma. Puis je pense que ça, dans cette histoire-là aussi, c'est de montrer un peu comment cette tragédie-là a eu un effet sur le développement du cinéma au Québec. T'sais, parce que, en fait, ce que j'ai trouvé fascinant, moi, en travaillant sur ce projet-là, c'est de découvrir à quel point on était à l'avant-garde au Québec. T'sais, à quel point, puis je pense que c'est pas juste au Québec, c'est un peu partout dans le monde. C'est, t'sais, on pense que ça a pris du temps avant que le cinéma vienne s'implanter, mais non, ça a été comme une bougie d'allumage. Les Frères Lumière, leur machine, là, la machine des Frères Lumière, qui permettait quand même à la fois de faire des films et de les projeter. Donc, c'est quand même particulier. Donc, quand tu étais projecteur, tu pouvais aussi faire tes propres films. Donc, c'était très accessible. Et puis, ça s'est répandu quand même très rapidement. Puis, c'est arrivé très rapidement au Québec, ça, le cinéma. On se pose la question, hein, comment ça se fait que ça a été si long? À un moment donné, il n'y a pas eu de cinéma, alors que il y a eu à cette période-là, à l'époque de la Belle Époque, jusque dans les années 30, il y avait énormément de salles de cinéma. Puis il y avait une industrie quand même du cinéma au Québec. Puis tout ça, ça a été un peu mis de côté, oublié un peu à cause de cette tragédie-là que l'Église a utilisé là, un peu pour démoniser le cinéma puis en faire quelque chose qui était mal. Donc, ça a pris un certain temps jusqu'au début des années 70, fin 60, là, où il y a eu une renaissance là, du cinéma au Canada et au Québec.
Oui, puis en fait, ironiquement, en fait, quand on parle de l'histoire de la bande dessinée, c'est à peu près la même chose. J'ai l'impression que quand on va creuser dans les pratiques culturelles au Québec, on voit qu'on faisait partie de l'effervescence au début du siècle et qu'à un moment donné, la grande noirceur nous a attrapés puis nous a fait perdre 30 ans essentiellement.
C'est ça, exactement. C'est vraiment la grande noirceur, puis comme tu le dis, qui a affecté d'autres domaines aussi. Là. Puis, donc, c'est un peu je trouve que ça permet de rajouter une petite brique là, dans l'exercice de pouvoir garder en mémoire là, tout ça. C'est ce moment-là qui a été charnière. Surtout à une époque, je trouve, où aujourd'hui, l'écran, le visuel est omniprésent, il est partout. Je veux dire, on ne peut pas. On prend pour acquis là, le visuel, les écrans, le cinéma, les films. Tu sais, on peut faire des films maintenant avec notre téléphone, on les retrouve un peu partout. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est de voir un peu la genèse de ça.
Et à travers l'album, à travers Arthur Leclerc, tu t'offres, évidemment, ça reste un peu une mise en scène classique avec des cases, évidemment des cases variables selon la mise en scène, selon les besoins. Il n'y a pas tant d'illustrations pleine page ou de mise en place pleine page. Je pense qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. Et j'ai l'impression que tu utilises aussi ce dispositif-là pour vraiment prendre une pause sur l'instant. Pour mettre en exergue des moments importants, l'achat du cinéma ou le mariage, par exemple, d'Arthur avec sa flamme, ou d'ailleurs, ça fait une belle image là, pour se figurer, et si les gens feuillettent l'album, ils vont la trouver aussi, mais vraiment, où on se retrouve à la chapelle, et tu as vraiment mis l'accent sur le lieu, sur l'architecture de l'endroit, et c'est simplement dans une case au bas de la page qu'on voit le geste du baiser, donc ça fait un équilibre qui est intéressant aussi, qui nous porte un peu à prendre une pause aussi à ce moment-là pour ressentir le moment avant de continuer sur la suite de l'aventure, si on peut dire.
Ouais, c'est sûr que les pleines pages, c'est comme un luxe qu'on se permet comme auteur parce que c'est sûr que c'est beaucoup d'espace que tu vas allouer à juste un moment, mais j'aime pouvoir le faire, j'aurais aimé ça le faire plus, puis c'est beaucoup une question de manque de pages, manque d'espace aussi pour pouvoir le faire. Puis aussi, parce que j'aurais pu rajouter des pages à l'infini. Je te dirais qu'il y a un moment où tu sais, ça faisait quand même depuis 2017 que je parlais de ce projet-là autour de moi. Et quand on me demandait, tu travailles sur quoi, tu sais, à part les laboratoires, d'autres projets, tout ça, je leur parlais de, je travaille sur une BD sur le cinéma. J'avais l'impression tout le temps de me répéter, de dire, je répétais tout le temps la même chose. J'avais hâte de enfin la sortir, cette BD-là. Donc, c'est sûr que j'aurais pu... Je pense qu'il y a une manière, il faut choisir. Il faut dire, il faut la sortir, cette BD-là.
Donc, oui, puis il faut choisir ces moments. Dans le fond, si tout était en pleine page, j'aurais moins d'impact. Donc, sur quoi, moi, comme metteur en scène, dans le fond, comme metteur en plan, je veux mettre l'emphase. On choisit les moments, on les utilise. Autant pour les feux qu'on change un peu l'ambiance, autant pour des moments clés, on se permet cette pause-là. Pour l'effet dramatique que ça va générer, dans le fond.
Moi, absolument. Puis comme tu disais, c'est aussi pour faire des pauses, un peu comme un respire là, dans le récit. Donc j'ai essayé de les disposer de façon à, à ce que tu n'aies pas deux, trois pleines pages qui suivent. Là, donc, les mettre un peu comme faire des pauses. Il y a aussi, on a pris le choix aussi de rajouter comme des. Comme il y a deux chapitres, en fait, là, parce que pour moi, cette histoire-là, elle se divise vraiment en deux. Même, il était question même qu'on le sorte en deux albums, puis finalement, on a décidé de le faire en un seul. Donc, qui est la partie plus lumineuse, qui est... Moi, dans ma tête, j'aurais pu le nommer comme ça, là, mais dans ma tête, c'était vraiment là, le côté de la caméra obscura, puis de la caméra lucida, tu sais. Puis pour moi, la caméra lucida, c'est tout le début, donc c'est tout le côté lumineux. Donc le côté c'est pour, on appelle ça le projectionniste ambulant au début tout simplement je pense, puis à la fin c'est les salles obscures parce que tout d'un coup ben c'est le moment où en plus d'être projectionniste, d'être de faire ses propres films, il décide d'avoir sa propre salle. Donc après ça on rentre dans d'autres choses aussi parce que c'est toute l'industrie du cinéma, donc aussi le l'industrie américaine qui vient compétitionner, essayer de l'hégémonie là, des États-Unis, des Américains qu'on ressent bien dans l'histoire. Puis que c'est drôle parce que ça résonne encore aujourd'hui. Hein, je pense quand on pense à des géants là, donc qui ferment des plus petites entreprises. Donc il y a ça. Donc le côté obscur de la fin. Qui est séparé comme par un chapitre. Donc,
Et on devinera qu'à travers justement cette fiction, ben c'est vraiment une forêt dans les débuts du cinéma au Québec. Donc, à partir d'un scénario de Normand Grégoire avec le dessin de Richard Valran. Ça s'appelle Arthur Leclerc, projectionniste ambulant. C'est disponible du côté de la Pastèque. Richard Valran, merci beaucoup.
Merci Raymond. À la prochaine.
Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on se met en mode club de lecture. Et d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.